France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Elle publie son 9e roman, DJ Bambi, l'histoire d'une dame trans d'un certain âge qui attend. Mais elle attend quoi? On en parle à 13h avec Odur, Ava, Olafsdottir. Et pour se mettre en jambe, l'actualité musicale est au menu de la critique. Aujourd'hui, avec les nouveaux albums de deux groupes qui ont bousculé le son des années 90, Cabin in the Sky de La Soul et Touch de Tortoise. Vous écoutez les midis de culture? Oui, c'est bien vous. Et je vous présente les critiques du jour. Joseph Gosne, directeur adjoint de la rédaction Madame Figaro, bonjour.
Bonjour Marie.
Christophe Comte, journaliste et auteur, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. Alors, retour au basique avec le nouvel album de La Soul. Presque 10 ans que les gars de Long Island n'étaient pas retournés en studio. Entre-temps, un des membres fondateurs du groupe, Trugoy, est mort à l'âge de 54 ans. Son ombre plane évidemment sur cet album. Mais avec Cabin in the Sky, les vétérans du hip-hop restent fidèles aux racines de leur rap, la soul, la funk et le jazz. On commence avec un avis en quelques mots, Christophe Comte.
Anachronique et sympathique et assez émouvant d'ailleurs.
Joseph Gosne.
Oui, à peu près la même chose. C'est un disque assez joyeux, une sorte de pièce de théâtre, mais qui dissimule une grande tristesse.
On va écouter tout de suite You Don't Stop. C'est le morceau que vous avez choisi, Joseph.
Wake up with a voice in my head to get cooked and fed to my feet to get up out of bed on the beat of a new day. Molasses in the walk, but the gas is in the talk. Give me the fuel, I'm a hawk ready to get the worm from off the New York City apples I earn. Rotten to the core, but you can never ignore a front and the shock that you get hearing fly fresh spit. But the list got me at top 5 underrated. Is that good enough way I'm slated? But the voice talk to the battery in my chest. So I keep moving at my best. Cindy said if y'all stop, then Dave stops. And that wouldn't be the show.
Le nouveau De La Soul, Cabin in the Sky. Joseph, pourquoi vous avez choisi ce morceau-là en particulier?
Ben, plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est vraiment dans un son et même une façon de chanter, de rapper, qui m'a tout de suite évoqué les années 90-2000, avec des références, bon, évidemment, à ce que eux ont fait, mais aussi à d'autres. J'entends vraiment beaucoup de réminiscences, mais il y a aussi ce côté orchestral. On se demandait d'ailleurs en antenne, est-ce que c'est un sample, est-ce que c'est pas un sample. Il y a cette question-là tout au long du disque, d'où viennent les choses. Mais c'est aussi un morceau qui dit do not stop, ça veut dire on ne s'arrête pas. Et ce qui est une sorte de, comment dire, ça introduit presque l'album en disant, bah, en fait, l'un de nous trois n'est plus là, mais ça ne nous empêche pas de continuer et aussi d'utiliser cette musique pour tenter de communiquer avec lui, ce qui est un peu tout le déroulé de l'album jusqu'à la fin, où il y a un peu une sorte de réponse à ça. Mmh.
Christophe Comte, pour vous, c'est anachronique et sympathique. Alors, c'est vrai que là, on est replongé totalement au tout début de La Soul, on les reconnaît exactement. Hein.
Et à une époque du hip-hop qui a quand même un peu disparu. Alors, il y a un casting absolument dingue. Au début, il y a Gianni Esposito, le comédien qui fait en Monsieur Loyal, qui présente un peu tout le monde. Alors, on est assez content de retrouver tous ces vétérans du hip-hop des années 90. Et puis, la fin, il appelle Dave. Et là, ça c'est assez émouvant parce que du coup, bah, y a pas de réponse.
Alias Trugoy, donc celui, voilà. le troisième membre qui est mort, hein, ouais.
Qui portait le joli nom de Joli Cœur.
C'est vrai, voilà. Joli Cœur.
Et donc du coup, il y a ce côté-là. Alors forcément, ça nous ramène à une époque où le rap n'avait quasiment rien à voir avec tel qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, je me dis que les jeunes qui écoutent du hip-hop, enfin qui écouteraient de la soul aujourd'hui, alors qu'ils écoutent, je sais pas, tous les artistes de hip-hop contemporain, doivent s'imaginer comme nous quand on écoutait Cure et qu'on nous faisait entendre Gene Vincent. Quoi, c'est vraiment, il y a un tel décalage de façon de faire et puis aussi de générosité. Je pense que voilà, c'est, il y a un truc très communicatif dans ce disque qui était vraiment celui de la soul au départ, qui est un groupe qui a toujours été, qui a dépassé le cadre du hip-hop, qui a toujours été d'ailleurs presque un groupe préféré par les blancs que par les noirs. C'était vraiment le groupe crossover par essence. Et d'ailleurs, leur précédent album, qui remonte à 9 ans, je crois, n'était pas du tout dans cette tonalité-là, puisqu'il y avait David Byrne, il y avait Damon Albarn, il y avait même un morceau de hard rock. Enfin, et là, vraiment, ils reviennent d'une certaine manière pour rendre hommage à leur ami disparu en 2023, donc il n'y a pas très longtemps. Ils reviennent un peu au cœur de la, au joli cœur de leur style et c'est très bien fait, quoi. C'est ça qui est assez génial, c'est que on écoute. Alors c'est un peu long, ça c'est un peu le problème, c'était déjà long à l'époque. Il y a 20 titres, c'est un peu, au bout d'un moment, c'est un peu, mais on ressent un truc quand même très très touchant. Il y a ce côté groovy qu'ils ont toujours eu. Il y a ces samples qui arrivent un peu de partout. Il y a même Bananarama à un moment qu'on reconnaît parce que c'est vraiment pour le coup.
C'est quasiment le morceau de Bananarama, voilà, qui est remis.
Lequel des Bananarama?
Cool Summer. D'ailleurs, le morceau s'intitule Cool Summer. Ouais, on est vraiment. C'est comme s'ils avaient pris Bananarama et l'avaient posé au milieu de leur disque. C'est assez étonnant.
Ouais. Et ils faisaient ça à l'époque. Ils pouvaient. Ce qui était génial chez De La Soul, vraiment au tout début sur leur premier album, c'est qu'il y avait des samples de Steely Dan, de choses. Et d'ailleurs, si je peux le rappeler, quelqu'un qui est très célèbre dans la maison, Mishka Assayas, dans Les Inrecuptibles, avait fait une chronique qui était pas très sympathique. Il s'en est voulu après, où il avait dit, j'ai l'impression que c'est des gamins qui ont surgi chez moi et qui ont fait pipi partout dans ma discothèque. Alors à l'époque, ça avait fait un gros scandale. Et c'est un peu ça, De La Soul. Et alors aujourd'hui, bon, évidemment, ils ont 60 ans, c'est peut-être plus même. Et ça n'a pas du tout la même teneur. Mais moi, j'étais étonné de ne pas écouter un disque rabougri, un peu. Il y a quand même une sorte d'énergie de jeunesse qui est assez présente.
Les papis du rap, quoi. On a un peu peur de
ça. Ouais, mais qui ont quand même gardé leurs jambes.
Voilà.
Ouais.
On est. Moi, j'avais l'impression, en écoutant ce disque, d'être quasiment en 1989, d'être quasiment dans la suite du premier album, avec cet appétit pour des sons, effectivement, venant de leur collection, de leur mémoire, et avec ce lien immédiat avec d'autres groupes qui ont surgi à ce moment-là, et Tribe Called Quest, tout ce mouvement du rap beaucoup plus fleuri, plus pacifiste, plus on pourrait le traiter de plus gentil que
plus jazzy aussi,
plus jazzy
peut-être.
Aussi, oui, plus jazzy avec des références.
Le Daisy Age,
ouais, le Daisy Age,
c'était vraiment les fleurs, quoi.
Il y avait vraiment ce son-là qui a vraiment disparu aujourd'hui. C'est-à-dire que cette façon de faire, comme le disait Christophe, qui consistait à prendre des samples, des bouts d'autres choses, des bouts de choses qu'on aimait et qu'on essaie d'agglutiner, de comme ça, de rassembler, a totalement disparu au profit d'un rap beaucoup plus sur le beat, le rythme, quelque chose de plus sec, de plus froid, de plus violent aussi. Donc on est dans quelque chose d'assez anachronique. En plus, l'anachronisme et ce retour au passé, il vient avec la liste des noms. Donc c'est la liste des noms de tous les gens qui participent. Il y a Nas, il y a plein de gens qui ont surgi avec eux ou un peu après eux. Donc on est dans un retour au passé. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un retour au passé qui s'inscrit dans une collection de disques qui est elle-même un retour au passé très 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 avoué, puisque d'autres disques dans cette même collection sont sortis cette année, qui sont tous faits par des gens du rap de ces années-là. Il y a notamment un disque d'un très grand il y a la suite d'un très grand disque de rap de Ghostface Killah qui s'appelait Supreme Clientèle, et là on a Supreme Clientèle 2. Donc on est vraiment dans une suite, dans une poursuite d'un son qui n'existe plus. C'est d'autant plus touchant, et effectivement moi j'étais très très ému à la fin de ce premier morceau introductif où Dave est appelé et Dave n'est pas là. Il y a vraiment quasiment des larmes qui sont montées, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement touchant de dire il n'est plus là, comment on fait pour continuer ? C'est une question que beaucoup de groupes peuvent se poser. Mais là, il la pose, il l'affirme, il y a des bouts de sa voix de temps en temps.
Oui, c'est ça, il est un peu là.
Et tout le disque, c'est ça, c'est vraiment une invocation à ce fantôme. Cabin in the Sky, en fait, ça se comprend comme il est là-haut, quoi. Il est quelque part là-haut dans cette cabine. Et le tout dernier morceau, de ce point de vue-là, est extrêmement touchant, puisque on comprend que c'est lui, en fait, que c'est un enregistrement de lui qui est là, qui est mis dans un morceau. Ça fait un morceau totalement posthume, totalement fantôme, et à la fin, il y a un merci. Mmh. Et de ce point de vue-là, ce disque m'a vraiment beaucoup, beaucoup touché, en plus de choses qui sont, comment dire, impossibles aujourd'hui. Je ne comprends même pas comment ils ont pu faire un morceau comme Cruel Summer avec Bananarama. C'est le morceau de Bananarama qui est au milieu, qu'ils utilisent notamment pour son truc, parce que le morceau dit « It's a cruel summer and now you're gone », tu n'es plus là. Tout est autour de ça. Et je ne comprends même pas comment ils sont arrivés à ça aujourd'hui dans un monde qui est tellement, tellement contrôlé.
Mmh. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui, alors? Parce que c'est le passé, ça nous fait plaisir
pas
à nous.
Pas totalement le passé.
Mais voilà.
Pas totalement le passé. C'est quand même un passé, c'est du deuil. C'est comment on vit ce deuil-là aujourd'hui.
Oui, parce que de toute façon, ils assument complètement le fait de plus être un groupe d'aujourd'hui, mais d'une certaine manière, tout ça est un peu mélangé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui écoutent des playlists et tout se mélange. Et d'une certaine manière, ce savoir-faire-là, il revient aussi de temps en temps. C'est vrai qu'entendre du scratch sur un disque de rap en 2025, c'est un peu anachronique, comme on l'a dit. Mais en même temps, il y a aussi ça parfois dans l'électro. Il y a des gens qui utilisent. Tout est un peu dans tout aujourd'hui. Et il y a beaucoup de labels, il y a beaucoup d'artistes chez Headbanger, par exemple, ce genre de labels qui sont très nostalgiques aussi de cette époque-là, qui correspond aussi à une jeunesse, celle des années 90, où les gens qui ont vécu cette époque-là ont eu l'impression de vivre un âge d'or musical, comme les gens qui avaient grandi dans les années 60 avaient l'impression. Et là, on est dans un revival. Cette année, on l'a vu, il y a eu le retour de Pulp, il y a eu ce genre de groupe-là qui était très très important à cette époque-là, qui ont marqué vraiment les gens, et d'une certaine manière, cette nostalgie qu'on peut trouver peut-être un peu passéiste, etc. Elle correspond aussi, je crois, à une manière aujourd'hui de concevoir la musique non plus comme une espèce de grand remplacement permanent, mais aussi de va-et-vient entre aujourd'hui et hier. Et je pense que Pulp a sorti un très très bon disque cette année.
Donc on en a parlé ici.
On peut pas dire que c'est un truc artificiel. Et De La Soul, même s'ils sont peut-être moins attendus, parce qu'ils ont fait quand même pas mal de disques les dernières années, les dernières décennies, et qu'on les a pas forcément écoutés d'ailleurs, mais malgré tout, ils font partie du paysage. Je trouve que le fait qu'il y ait cette dimension plus émotionnelle rajoute peut-être quelque chose à ce disque que n'avaient pas les précédents.
Joseph Goss, un dernier mot.
Je crois qu'il y a aussi quelque chose à l'époque, quand ils sortaient leurs premiers albums, ils rassemblaient des samples de choses et il y avait un côté un peu ludique pour l'auditeur. C'est-à-dire, tiens, qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça se trouve, d'où est-ce que ça vient, d'où est-ce que ça sort. Aujourd'hui, tout ça est identifiable immédiatement par de l'IA, par tout ce que vous voulez. Il y a tellement d'applications qui vous permettent d'identifier le moindre petit bruit que ça en devient presque une sorte de contre-culture, en fait. Enfin, en tout cas, un geste de contre-culture qui consiste à dire, on est capable de prendre des choses dans notre histoire et on vous les propose et c'est même pas la peine d'aller chercher l'IA. En fait, ce qui est intéressant, c'est ce que nous, on est en train de faire, et c'est ce même geste. C'est quasiment de l'artisanat, en fait, leur disque. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant par rapport à aujourd'hui. C'est ce truc très, très artisanal, finalement.
Cabin in the Sky de La Soul, sorti chez Mass Apple Records. Joseph Gost, vous gardez la parole, puisque c'est l'heure de votre coup de cœur.
Un coup de cœur pour un groupe qui s'appelle Cosmic Tones Research Trio. On commence peut-être par écouter un petit
allez,
extrait.
Vous écoute, Joseph.
C'est un groupe que j'ai découvert grâce au label Mississippi Records, qui nous avait déjà fait découvrir Tsegoy Emaou, Mariam Gebre, la pianiste éthiopienne, et quelques autres groupes comme ça. Mais là, c'est un groupe d'aujourd'hui, c'est pas une réédition. C'est un trio de Portland qui joue du jazz, mais du jazz très contemporain, avec des plages et des moments extrêmement ambiantes, très 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 contemplatifs. C'est du jazz spirituel qui évoque dans son instrumentation, notamment ce violoncelle, le piano électrique, des choses des années 70, avec, comme notamment des disques d'Alice Coltrane ou Pharoah Sanders, mais avec beaucoup moins de violence et de regain, ou en tout cas de recherche comme ça, comme pouvait se faire à l'époque. On est dans quelque chose d'assez apaisé, qui se dirige vers de la méditation quasiment. C'est un disque, c'est un groupe en tout cas que j'ai beaucoup aimé sur leur premier album. Celui-ci poursuit cette route-là, et je trouve qu'il gagnerait. Enfin, moi en tout cas, c'est un groupe que j'ai très très envie de continuer à écouter, et surtout de voir sur scène. Parce que on est dans un moment où on a beaucoup réécouté le jazz des années 60, 70, John Coltrane, etc. On l'a aussi beaucoup écouté en ayant écouté du post-rock, de la techno, toutes ces choses-là, de la musique ambiante, de la musique japonaise ambiante, etc. Et je trouve que Cosmic Tones Research Trio, dont le nom d'ailleurs fait référence à Sun Ra, puisque c'est pris dans le titre d'un album de Sun Ra, je trouve que ce groupe-là arrive à rassembler un peu de toutes ces esthétiques-là pour aujourd'hui et en faire quelque chose comme une bulle. C'est vraiment une bulle, et c'est quasiment, moi je l'écoute quasiment comme une résistance à la vitesse, à la rapidité de ce qui se passe autour de nous. C'est quasiment un groupe anti-TikTok.
Un groupe anti-TikTok parfait pour résister à la vitesse du monde. The Cosmic Tones Research Trio. Merci beaucoup, Joseph Gosse. Encore un comeback avec Touch, le nouvel album de Tortoise, 9 ans après The Catastrophist. C'est à la fin des années 90 que les 5 de Chicago ont connu leur apogée à la croisée des chemins du rock, de l'électro, ce qu'on a appelé le mouvement post-rock. Peut-on encore faire sonner des guitares en 2025 et surtout comment? Joseph Gosse, dans quelques mots d'abord.
Bah, évidemment qu'on peut encore faire sonner des guitares et des basses surtout.
Et des basses.
Ce disque, je ne sais pas si c'est un bon album, mais en tout cas, je crois que c'est un très bon album de Tortoise. C'est déjà pas mal.
Pas mieux. Oui, un bon album de Tortoise avec quand même, malgré tout, une sorte d'obstination chez eux, même après 9 ans d'absence à ne pas dévier d'une route qui a commencé il y a maintenant 25 ans.
On va écouter tout de suite Axial Cement, c'est le morceau que vous avez choisi, Christophe. Cement sur le nouvel album de Tortoise Touch. Christophe Comte, moi j'ai dit post-rock, comment vous situez-vous Tortoise?
Très difficile parce que cette étiquette post-rock finalement elle correspond pas à grand chose. C'est une manière de dire qu'on savait pas comment les classer, voilà. Donc on a trouvé une étiquette. Et c'est un groupe qui a démarré de tout début des années 90, qui à la base était un duo entre un batteur et un bassiste. C'était vraiment un groupe rythmique auquel s'est rajouté après John McIntyre qui était lui-même percussionniste, donc il y avait quand même ce côté rythmique au départ dans Tortoise, et puis après les guitares, le vibraphone que joue John McIntyre sont devenus des sons comme ça signature, et ça correspond à une époque, je pense effectivement, alors là on va parler de Dolasso, mais où le rock pour le coup non seulement était arrivé un peu au bout du bout de ce qu'il pouvait faire en matière de revival justement des années 60, des années 70, et où il y avait un besoin de se projeter vers quelque chose qui était a priori inconnu, même si on l'entend là et il y a dans les gènes de Tortoise quelque chose du rock allemand des années 70, évidemment, de tous des gens qui avaient à l'époque fait une musique qui était tellement d'avant-garde qu'en 90 elle paraissait encore moderne. Bon, et Tortoise a joué un peu là-dessus. C'est un groupe qui vient de Chicago, faut pas l'oublier. Chicago est quand même un gros spot du jazz, et d'une certaine manière ce sont des musiciens qui ont fait du rock comme on ferait du jazz. Il y a une part d'improvisation chez eux. Et alors, 25 ans après, qu'est-ce que cette musique peut raconter de nouveau? À vrai dire, pas grand-chose. C'est-à-dire que quelqu'un, je pense pas que ça puisse amener vers eux de nouveaux adeptes. En revanche, pour les gens qui ont suivi l'itinéraire de Tortoise et de toute cette nébuleuse hein, qui correspond quand même à une époque de Sea and the Cake, enfin tous ces groupes-là qui étaient un peu autour de Tortoise, où les membres étaient d'ailleurs les mêmes souvent, je pense que c'est un disque qui effectivement a une teneur quand même, une certaine... voilà, qui est pas forcément quelque chose de facile à aborder pour le grand public, on va dire. Le précédent album, The Catastrophist, avait une particularité, c'est qu'il y avait un ou deux morceaux chantés. Là, ils ont vraiment retour à l'instrumental pur et dur, mais dans une variation quand même de musique. Il y a un morceau un peu techno à un moment, il y a des morceaux avec des guitares saturées, il y a ce côté-là plus synthétique. Donc il y a une sorte de panel comme ça, qui est certes une musique qui est pas forcément aguicheuse, mais qui correspond à quelque chose. Alors, il y a une très belle pochette. Au départ, je pensais que c'était une œuvre de Man Ray. En fait, pas du tout. C'est un scorpion. C'est une sculpture du père de John McIntyre, l'un des membres de Tortoise, et qui est très beau autour d'un visage de femme comme ça. Et je me suis dit, ce disque est un peu comme le scorpion de la pochette. C'est-à-dire qu'il paraît paisible comme ça, et puis à un moment, il vous mord un peu par surprise. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses. Alors, au départ, très franchement, quand je l'ai écouté la première fois, je me suis dit, franchement, j'ai pas envie d'entendre ça aujourd'hui, en 2025. Et puis, petit à petit, en le réécoutant, etc., je me suis dit, non, au contraire, qu'il avait quelque chose de très contemporain. Et Tortoise a été un groupe tellement pillé qu'en même temps, que c'est normal qu'à un moment, ils ramassent un peu le fruit de leur, voilà, de leur création.
Joseph Gosse.
En fait, cette pochette et le titre aussi du premier morceau disent exactement ce qu'on va entendre. C'est-à-dire que la pochette, c'est le scorpion, et c'est un peu, moi j'ai pensé tout de suite à la parabole du scorpion, vous savez, le scorpion et la grenouille, et le scorpion qui au milieu de là dit je n'y peux rien, je suis comme ça. Et le premier morceau s'appelle Vexation. Vexation, c'est une référence immédiate, comme ils ont souvent eu l'habitude d'en faire immédiate à Eric Satie et à la pièce d'Eric Satie qui s'appelle Vexation, qui est une répétition du même motif plus de 700 fois. Et on a l'impression qu'immédiatement, ils vous disent « on va faire du Tortoise ». Donc on est chez nous, et vous allez essayer de suivre ce qui va se passer, et il se peut qu'au milieu du guet, on vous pique, et vous allez mourir avec nous. Pourquoi pas ? Mais effectivement, comme Christophe, j'ai eu un peu de mal au début à rentrer dans ça, en me disant « oui, est-ce que j'ai encore envie d'écouter ça ? Est-ce que c'est pas un peu passé ?» Mais finalement, je me suis vraiment pris au jeu, notamment à partir de la moitié de l'album, pris par ces morceaux, à me poser la question de comment est-ce qu'ils continuent à faire encore. Et Christophe l'a dit, c'est un grand groupe percussif, c'est aussi un très bon groupe de scène, justement, avec ce jeu de percussion. C'est un très très bon groupe live, on l'entend, mais ça a aussi été un très grand groupe de studio, Tortoise, il faut pas l'oublier. Sur leur deuxième album, un morceau qui s'appelait Jed était vraiment une construction de DJ, quasiment une construction électronique avec des bouts comme ça, des collages. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un album qui a été fait à distance. Ils ne vivent plus à Chicago, ils sont chacun dans une partie des États-Unis, et ce sont des bouts de fichiers qui sont envoyés. Donc il y a un temps de maturation, un temps d'élaboration avec la distance et avec cette facilité qu'ils ont à se connaître, mais aussi cette redécouverte. Donc on a l'impression d'entendre parfois des choses qui sont inédites chez eux, en fait, quand on écoute bien dans le fond, et puis d'un coup des choses qui sont comme dans le morceau qu'on a entendu, qui sont vraiment du Tortoise pur jus, c'est-à-dire avec des références immédiates au krautrock, des références immédiates à certains jeux de percussion, notamment sur le premier morceau, sur Vexation, à la deuxième moitié du morceau, d'un coup il y a cette ligne de basse qui apparaît, et on se dit mais oui, c'est Tortoise, c'est Doug McCombs qui joue, on est vraiment chez eux. Donc il y a quelque chose de la familiarité, mais aussi du renouveau dans la construction, dans le déroulé, qui fait que moi j'ai été extrêmement pris, et j'étais d'autant plus pris que j'ai l'impression qu'il y a aussi un renouveau qui est dû au label, puisqu'ils sont plus dans leur maison historique qui était Thrill Jockey, mais ils sont sur International Anthem, qui est un label très intéressant aujourd'hui, qui sort beaucoup de jazz un peu étrange, de jazz électronique. Il y a un album, de très très bel album de leur guitariste Jeff Parker qui est sorti l'année dernière, très très bel album vraiment, que je recommande vraiment très très chaudement, comme on dit. Donc c'est comme s'ils avaient trouvé une nouvelle maison, un nouvel endroit qui leur convient, qui convient aussi un peu à l'époque, à un nouveau son du jazz, une sorte de renouveau, et qui se situe un peu dans ça, en se disant, on n'est pas tout à fait rock, on n'est pas tout à fait jazz, je ne sais pas s'ils sont post quoi que ce soit aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une nouvelle façon de faire, et moi ça m'a plutôt plu au bout de quelques écoutes.
Christophe Comte, vous disiez tout à l'heure qu'ils avaient été pillés complètement, Tortoise.
Oui,
ils ont donné lieu à quoi
Toute cette musique instrumentale qu'on entend encore aujourd'hui dans des tas de domaines, et puis aussi, je pense, dans la pop, il y a un autre groupe qui est revenu cette année, Stereolab, par exemple.
Oui.
Il y a beaucoup de évidemment, c'est pas des groupes qu'on reprend ou qu'on c'est pas aussi simple que ça, mais ça s'infiltre un peu partout, quoi. Et alors il y a dans ce disque un morceau quand même très étonnant, c'est le dernier, qui là pour le coup est un morceau qui ressemble à un titre de Jack Nitzsche des années 60, un truc de surf un peu western, très très étonnant quand même pour Tortoise. Là pour le coup, je trouve que c'est une vraie découverte, parce que je pensais pas qu'ils arriveraient un jour à faire ce genre de musique là, c'est-à-dire une musique presque parodique. C'est mis en dernier comme ça, j'ai l'impression que c'est à peine assumé, mais c'est un super morceau pour le coup. On attend qu'il y ait une voix qui arrive, et puis elle arrive jamais en fait, et ça ressemble à un morceau des Shangri-Las ou un truc comme ça. Enfin, c'est un truc vraiment pour le coup totalement anti-rock, on va dire. Et voilà, et je pense qu'effectivement c'est un groupe qui a toujours été là. C'est un peu comme un autre groupe de l'époque, Slint. C'est des groupes qui ont fait école d'une certaine manière, avec une musique qui était pas très très sexy, hein, faut bien dire, dans une période où peut-être la musique était un peu en train de se chercher, et eux sont arrivés. Il y a eu beaucoup de choses dans le post-rock, on a mis tout et n'importe quoi, Godspeed You, Black Emperor, les Canadiens, enfin il y a eu toute une vague comme ça, et cette espèce de rock qui finalement ne correspond à rien des codes qui étaient celui du rock au départ, mais d'une certaine manière les englobe tous, sauf peut-être celui du glam ou de l'image, de tout ça. C'est très froid, c'est des types qui ressemblent à des ingénieurs en
vieux ingénieurs barbus, oui,
voilà,
les photos
donc voilà, il y a rien qui puisse se mettre sur un t-shirt, mais c'est extrêmement, je trouve, c'est une musique importante quand même. Elle a été très très importante à une époque, et elle reste quand même très sensuelle aussi.
Très mélodique aussi. Il y a beaucoup de mélodies chez eux. Alors qu'on pourrait croire qu'il n'y en a pas. C'est très très précis, mais c'est jamais démonstratif. C'est ça aussi qui marche très bien dans ce groupe.
Touch de Tortoise, disponible chez International Anthem et Nonesuch. Je précise d'ailleurs que Tortoise va être en concert à Lille, à l'Aéronef, le 23 janvier prochain, et au Trabando à Paris, le 28. Christophe Comte, Joseph Coste, merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture, et à très bientôt.